Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord. La vie sociale et la communication des cétacés, on en parle dans un instant avec notre invité Pierre Caldi, qui a participé à ce livre « Intelligence des profondeurs, les dernières découvertes sur le monde incroyable des cétacés ». Pierre Caldi, on parle de quelles nouvelles découvertes ?
Les dernières découvertes, c'est que c'est un monde en soi. Chaque dauphin appartient à une société qui s'organise. Et c'est maintenant qu'on commence à comprendre comment ils échangent, comment ils vivent. Et c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup quand même de ressemblances avec nous.
Le rideau est tombé sur la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. L'heure est maintenant au bilan et aux perspectives. Et on évoque notamment un changement de destination d'arrivée pour la prochaine édition dans 2 ans.
J'ai déjà vu quelques coureurs qui m'ont donné des idées de destination parce qu'ils ont envie d'aller à certains endroits. Je sais que Carthagène est un endroit que les coureurs ont envie d'aller découvrir et ont envie d'avoir une course vers cet endroit-là.
Gwendal Jaffry, vous allez nous présenter une exposition visible à l'école d'architecture à Nantes.
S'affranchir d'Archimède, c'est son titre, où on examine la plaisance depuis les années 1890 jusqu'à nos jours.
Et Jean-Michel Guénier, acheter un bateau avec ses économies, ça sera bientôt du passé.
Oui, alors c'est vrai qu'on découvre aujourd'hui des nouvelles offres de financement vraiment novatrices. On achète un bateau, on le finance à 100%, on le met en location, on a une garantie de rachat. Vraiment, ça change la donne.
À tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pierre Caldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le traducteur de ce livre « Intelligence des profondeurs, les dernières découvertes sur le monde incroyable des cétacés ». On va s'intéresser, pour commencer, à la vie sociale des cétacés. Comment est-ce qu'on pourrait les définir, cette vie sociale dense, riche ?
Extrêmement dense, du moins ce que l'on en sait, puisque ce n'est pas évident d'explorer leur vie sociale. On commence à le faire parce qu'on a des nouveaux moyens, mais c'est un gros travail. Et depuis quelques années, on arrive comme ça à mieux identifier chaque individu et par là même mieux saisir leurs échanges.
Est-ce qu'on peut distinguer plusieurs types de comportements ?
Bien sûr, il y a des comportements d'alimentation, recherche de nourriture, qui vont varier suivant les lieux, suivant les espèces. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a une très grande diversité. Comportement de reproduction, évidemment. Hein, chaque espèce a ses propres rituels. Et puis, comportement aussi, particulièrement chez les odontocètes, les cétacés avec des dents, on sait qu'ils ont une vie sociale très riche. Donc, c'est un troisième aspect de la communication chez les cétacés.
On a évoqué, Pierre, des nouvelles méthodes d'observation, en tout cas des méthodes plus récentes. On peut en présenter une ou deux ?
Alors, la plus courante maintenant, ça s'appelle les DTAG, c'est-à-dire on fixe avec une ventouse une espèce de smartphone qui va enregistrer alors, bien sûr tous les bruits, toutes les vocalisations, mais aussi la profondeur, l'accélération, l'orientation. Donc, ça va permettre de connaître beaucoup mieux des individus et après de les caractériser, de les identifier et par le même de mieux explorer leur interaction avec les autres. Donc, c'est une technique maintenant qui est très répandue et qui permet justement de commencer à faire des études sociales sur les dauphins et de mieux connaître les regroupements entre dauphins.
Il y a aussi dans ce livre la mise en évidence de ces alliances, de ces coalitions qui peuvent exister entre les cétacés.
Ah oui, ah bah ça c'est très clair. On le voit, les dauphins, les orques, il y a vraiment des regroupements. Alors, ce qui complique la chose, c'est qu'on parle chez les dauphins de dynamique de fission-fusion, c'est-à-dire que ce sont des regroupements qui ne sont pas permanents, qui peuvent changer au fil du temps. Donc, il y a des groupements stables, mais il y en a d'autres qui, pour des groupes plus importants, peuvent mener à des associations pour une durée limitée, on va dire. Et là, on sait que ça peut regrouper une dizaine d'individus, voire des centaines, voire des milliers. Par exemple, lorsqu'ils organisent des chasses, les dauphins, quand il y a de grandes bandes de poissons, peuvent se regrouper en alliance, c'est-à-dire comme on le voit par exemple chez certains primates ou même la hyène tachetée, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se coordonnent dans un but et puis qui après peuvent se disloquer.
Thank you. Un extrait du piano sous la mer de Saint-Preux, c'était le choix musical de notre invité que nous allons retrouver dans un instant. Ça sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, qui va nous parler maintenant d'une exposition à l'école d'architecture à Nantes.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Une exposition qui s'appelle « S'affranchir d'Archimède ».
Alors, effectivement, « S'affranchir d'Archimède », pourquoi ? Parce que tout le but de cette exposition est là. On part d'il y a un peu plus de 100 ans pour arriver à nos jours. On parle des bateaux qui flottaient grâce à Archimède, justement, jusqu'au bateau, pour en venir aux bateaux qui aujourd'hui volent, ou plutôt s'affranchissent d'Archimède en planant sur les flots grâce à leur foil. Alors cette exposition est très intéressante puisqu'on part des origines de la plaisance. On découvre par exemple que la plaisance n'est pas si récente. Cléopâtre elle-même pratiquait la plaisance sur un bateau qu'elle avait spécialement fait construire pour. La plaisance ou le yachting, un drôle de mot d'ailleurs puisque tout le monde parle de yacht alors que la véritable étymologie de ce mot est néerlandaise où on parlait de yacht, qui ensuite ont donné le mot yacht en Angleterre quand les Anglais se sont mis à la plaisance. La plaisance également à Versailles, on en avait déjà parlé dans cette émission, justement avec Louis XIV qui s'adonnait à la plaisance sur le grand bassin de Versailles. Ensuite, on va glisser un peu au travers de cette exposition vers la querelle des plats à barbe et des couloirs lestés. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, les Anglais aimaient les bateaux profonds avec du lest et très étroits, pendant que les Américains aimaient les bateaux très larges avec une dérive plutôt léger. L'histoire va montrer d'ailleurs que les Américains ont un tout petit peu raison, puisque pendant quasiment 130 ans, la Coupe de l'América, ce sera pour eux, les Anglais ne vont jamais réussir à la leur ravir. Ensuite, on va glisser vers la France, Paris, Marseille, Nantes, qui s'approprient justement ces querelles américano-anglaises pour développer des bateaux spécifiques. Le Clipper de Seine à Paris, le Houari marseillais à Marseille et à Nantes, des yachts métalliques. Et c'est justement là le début de l'exposition au travers des objets. Deux bateaux exceptionnels, Vétille et Vezon. Deux bateaux très anciens, Vétille 1893, Vezon 1886, qui naviguent toujours aujourd'hui. Un troisième de ces bateaux métalliques est à Douarnenez, il s'agit de Viviane. Ces deux bateaux métalliques, on aura l'occasion de les voir, de les toucher, ce qui est tout de même assez rare, même si on a l'occasion de temps en temps de les voir naviguer sur la Loire ou sur l'Erdre. Puis on vient davantage vers nos jours, le 470 André Cornu, architecte naval nantais qui invente le planning. S'affranchir d'Archimède, André Cornu commence. C'est pas lui le premier qui l'a fait, c'est un Anglais. Mais pour une fois, le bateau va commencer à aller plus vite que sa vitesse théorique. Et enfin, on va arriver vers les célèbres bateaux à foil qu'on voit naviguer aujourd'hui, les fameux Moss à foil, dont un bateau construit en bambou. Très, très étonnant. Et tout ça, ça marche quand même à quasiment 50 km/h au-dessus de l'eau.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec notre invité Pierre Caldi, nous allons évoquer maintenant la communication des cétacés. Comment est-ce qu'ils communiquent, Pierre ?
Alors les cétacés, le principal moyen de communication, c'est le son. Donc ils utilisent pour ça un dispositif qui leur est propre, qui a évolué dans l'eau, on va dire, hein, parce que c'est l'eau... La vision, c'est pas très, très efficace. Ils ont une ouïe très développée et ils utilisent aussi donc leur appareil, leur sonar, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer des sons et de récupérer donc le reflet, là, l'écho, et d'interpréter en fonction de ça ce qu'ils ont en face. Hein. Donc c'est quelque chose d'analogue, par exemple, à ce qu'on connaît chez les chauves-souris. Ces deux moyens principaux de communication. Après, il y en a d'autres qui peuvent être, par exemple, le contact. Hein. Les dauphins aiment bien le contact. Ils sont très sensibles avec leur peau et ils échangent comme ça. Ça peut être des caresses ou des chocs un peu plus violents. Voilà.
Quel type d'infos ils transmettent ?
C'est très varié. C'est aussi bien pour la chasse. Hein. Donc, ils peuvent identifier des proies. Et puis, c'est aussi, bien sûr, dans les échanges entre congénères. Hein, et là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. On sait que les dauphins et probablement les autres cétacés, du moins ceux qu'on a un peu plus étudiés, ont une signature sifflée. Donc, chaque individu a son propre sifflement par lequel il est reconnaissable.
Est-ce qu'un jour, il sera possible de communiquer, notamment avec les dauphins ?
Alors, ça, c'est un mythe, on va dire, puisque le livre décrit très bien cette histoire. C'est que dans les années 60, certains chercheurs ou passionnés par les dauphins ont cherché à avoir une relation beaucoup plus proche avec les dauphins et à élucider un peu leur langage, enfin essayer de communiquer avec eux. Donc ça a mené à des situations un peu rocambolesques. On cite notamment le cas de John Cunningham Lilly, qui travaillait sur une île de l'État de Hawaï et qui a cherché vraiment à avoir une interaction très très proche avec les dauphins en essayant de deviner leur langage, mais ça n'a pas vraiment abouti. Il a eu un successeur qui était beaucoup plus sérieux, qui s'appelait Lou Herman. Lui avait réussi quand même à communiquer avec les dauphins, mais c'était par des gestes. Par des gestes ou par des sons qui étaient reproduits par ordinateur. Mais bon, alors c'était très intéressant, mais c'était en même temps quelque chose d'un peu artificiel, puisqu'on leur apprenait à parler en quelque sorte. Et Lou Herman a bien précisé que ça avait quand même ses limites. On ne peut pas extrapoler aux dauphins notre langage et nos capacités.
Intelligence des profondeurs, les dernières découvertes sur le monde incroyable des cétacés. Un livre sous la direction de Janet Mann, qui est professeure de biologie, de psychologie aux États-Unis à Washington, qui a étudié les dauphins depuis plus de 30 ans. Et un livre traduit par Pierre Caldi, qui était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre.
Merci.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
On passe à la voile avec le rideau qui est tombé sur la 14e édition de la Transat Jacques Vabre, course en double entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil. L'heure est maintenant au bilan et aux perspectives et on évoque notamment un changement de destination d'arrivée pour la prochaine édition dans 2 ans. Le reportage d'Yves-René Tapon.
C'est la 2e fois consécutive, la 6e au total, que Salvador de Bahia accueillait les marins de la Transat. La musique et le feu d'artifice pour accueillir chaque bateau cachent mal à un regret le manque d'ouverture sur la ville et les Brésiliens. La raison serait politique, la ville de Salvador n'a pas beaucoup investi pour en faire un véritable événement de ce côté de l'Atlantique. Et le skipper Gilda Morvan.
C'est vrai que ça m'est arrivé des épreuves comme Cap Istanbul où à chaque escale on découvrait aussi un pays, on voyageait, on avait une organisation qui était vraiment en train de nous faire rencontrer les gens du pays, des coins typiques, donc c'était vraiment quelque chose de bien. Là, ça manque un petit peu d'échange avec le public brésilien, avec des visites du classique ici à Bahia. C'est un côté qui manque, c'est sûr.
Ce que confirme Sébastien Tasserie, adjoint chargé des sports à la mairie du Havre.
Cette année particulièrement, le lien entre les Bahianais et la Transat Jacques Vabre n'a pas été fait puisque la ville n'était pas un de nos partenaires pour cette année. Mais je peux vous assurer, pour porter mon t-shirt tous les jours à l'intérieur de la ville et pour y rencontrer beaucoup de monde nous parle de la regatta et qui voit les bateaux passer sur le plan d'eau. Les Bayanais, eux, ont bien vu qu'on était là.
La question se pose donc sérieusement d'un changement de destination dans 2 ans.
J'ai déjà vu quelques coureurs qui m'ont donné des idées de destination parce qu'ils ont envie d'aller à certains endroits. Je sais que Carthagène est un endroit que les coureurs ont envie d'aller découvrir et ont envie d'avoir une course vers cet endroit-là.
Rio ?
Pourquoi pas ? On avait déjà négocié avec Rio, ça n'avait pas été possible. Mais pourquoi pas des ports qui seraient juste à côté de Rio ? Ça serait aussi très intéressant. Plusieurs critères. Il faut que ce soit un lieu de café. Il faut que ce soit un lieu qui fasse rêver. Et puis la troisième, une ville qui a envie de cette transat et à qui on apporte quelque chose, et ça, on y travaille.
Un appel à candidature sera donc lancé au début de l'année prochaine. Le sponsor majeur, Jacques Vabre, tient en tout cas cette course. Nathalie Roland, directrice communication.
Plus fière que jamais de cette 14e édition de la Transat Jacques Vabre. Ça fait maintenant 26 ans que le groupe JDE et la marque Jacques Vabre sont engagés, ont créé cette route du café avec la ville du Havre. Fière également du superbe plateau de skippers que l'on a eu cette année avec des noms vraiment emblématiques du monde de la voile. Fière aussi que la région Normandie nous ait rejoint sur cette édition pour venir nous renforcer au niveau de l'organisation. Que ce soit la ville du Havre ou la marque Jacques Vabre, on a notre mot à dire. Le concept de la course, en effet, c'est la route du café. Donc l'objectif, c'est de partir du Havre, premier port caféier de France, et de toujours rejoindre un pays producteur de café.
Le poids des skippers et notamment de la flotte des IMOCA sera également très important dans le choix final.
Le reportage d'Yves-René Tapon. Jean-Michel Guénier, acheter un bateau sans taper dans ses économies, c'est ce dont on va parler maintenant.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Et ce, grâce à de nouveaux systèmes de financement.
Oui, c'est ça, comme vous le disiez, acheter un bateau avec ses économies ne sera bientôt plus qu'une référence du passé. Alors, on connaissait depuis longtemps déjà le crédit, puis le leasing, la LOA, location avec option d'achat, devenu très populaire d'ailleurs pour l'achat de bateaux, notamment grâce aux avantages fiscaux et de l'exemption partielle de la TVA accordée depuis 1973. Eh bien, ce système de financement prend une nouvelle ampleur grâce aux loueurs de bateaux qui développent de nouvelles offres d'achat assorties de mise en location du bateau. Alors certes, c'est pas totalement nouveau, notamment pour les grosses unités, les grandes sociétés de charter comme Mooring, Sunsail, Dream Yacht Charter ou Kyriakoulis utilisent ce montage depuis longtemps pour financer leur flotte aux quatre coins du monde. Mais désormais, ça devient aussi valable pour un petit bateau basé en Manche ou en Atlantique. Alors, c'est ainsi que Dream Yacht Charter vient de présenter son offre Triple Play. Ouverte à l'achat d'un semi-rigide Zodiac Medline ou aux petites vedettes Beneteau Flyer 660, il s'agit d'un financement sans apport initial avec garantie de rachat, moyennant la mise à disposition aux locations sur le site de location entre particuliers, Samboat, qui est aujourd'hui propriété du groupe Dream Yacht Charter. Alors concrètement, au bout de 36 ou 48 mois, selon la durée choisie, vous pouvez faire jouer l'engagement de rachat de Dream Yacht Charter, lequel couvre la valeur résiduelle due à l'établissement financier, si vous ne voulez pas conserver le bateau. Et pendant les 3 ou 4 ans que dure votre contrat, la mise à disposition du bateau sur la plateforme Samboat, qui est le leader européen de la location à la journée, permet, via les revenus de la location du bateau, alors ils estiment environ à entre 30 et 50 jours par an, de compenser une grande partie des mensualités de la location avec option d'achat et des frais d'entretien comme la place de port, la maintenance, etc. Alors, ce système est aujourd'hui disponible dans tous les ports où Samboat dispose d'un boat captain, un réseau physique de services de conciergerie qui s'occupe des mises en main des bateaux auprès des locataires. Il en existe aujourd'hui une bonne vingtaine sur nos côtes du Grand Ouest. Cette solution d'achat, elle est vraiment tout à fait novatrice, elle sort des sentiers battus et on n'aurait encore jamais imaginé il y a quelques années une telle solution. Mais à l'heure où les modes de consommation évoluent à vitesse grand V, ce système permet aux loueurs de financer une flotte neuve à moindre coût. Alors, grâce à une offre comme Triple Play, une plateforme comme Samboat pourra ainsi proposer plus de bateaux neufs, plus adaptés à la location intensive que l'offre majoritairement constituée de vieux bateaux, qui représente aujourd'hui une part significative du catalogue.
Et pour terminer ce magazine, nous allons nous intéresser à une navigatrice, Jean-Michel Guignet, Isabelle Autissier.
Et oui, Jérôme, Isabelle Autissier, bien connue, hein, Isabelle Autissier, animatrice radio, écrivain, ingénieure halieutique, aujourd'hui présidente d'une grande ONG environnementale. On en oublierait presque que cette femme de 63 ans est avant tout une grande navigatrice qui a remporté les plus prestigieux trophées de la course au large entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Alors, troisième de la Mini Transat en 1987, elle participe deux fois à la solitaire du Figaro, puis devient en 1991 la première femme à avoir couru autour du monde en solitaire en participant au Bock Challenge. Elle remet ça deux ans plus tard pour le Bock Challenge, puis participe au Vendée Globe en 1996, à la Whitbread en 1998, puis à la course autour du monde Around Alone et à la Transat à G2R. Aujourd'hui retirée de la course au large, elle a mené ces dernières années plusieurs expéditions en Antarctique.
Merci Jean-Michel Guignet. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt, au revoir.